Tout d'abord, un petit mot pour les enfants et pour les parents. En préparant cette prédication, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était prévue pour le 17 août. Et il se trouve qu'en période de vacances, les enfants sont aussi présents avec nous. Le texte qu'on va lire ce matin, sur lequel je vais essayer de vous en parler un peu, ne se trouve pas dans les Bibles pour enfants. Il se trouve dans la Bible, ça, il n'y a pas de doute. Mais pas dans les Bibles pour enfants. Il est un peu dur. Donc, je m'adresse aux enfants. Si à la fin de ce temps, de ce culte, vous avez des questions, ne restez pas avec. Soit venez me voir et on en discute, soit parlez-en à vos parents. Et du coup, ça fait une invitation déguisée à vos parents de bien écouter ce que je vais raconter. Parce que je crois que ça permet aussi de rendre ce texte, enfin, de lui apporter la lumière de la grâce de Jésus-Christ et de mieux comprendre. Pourquoi il est dans la Bible et pourquoi il nous choque. Ah, mince, je pensais avoir la zapette quelque part. Donc le texte de ce matin, comme j'aime pas choisir les textes, je les prends pas au pif, mais je prends le texte du jour dans le guide de lecture de la Bible en 4 ans. Et le texte d'hier, en l'occurrence, c'était Lévitique 10. Lévitique, c'est pas forcément un texte qu'un livre sur lequel on traîne quand on le lit en continu. C'est beaucoup de lois, beaucoup de tout ça, et il se trouve que celui-ci, non. C'est pas un texte de loi. Mais pour autant, il n'est pas si simple à lire. On va le lire ensemble. La version que je vous ai projetée, c'est la même que celle que je vais lire. D'ailleurs, je vous encourage à plutôt lire dans cette version-là. Certaines versions ont tendance à donner plus de sens à la traduction qui en est faite depuis l'hébreu. Et ce qui va un peu gâcher ce que je vais dire derrière. Parce qu'il y aura déjà dans les termes qui sont utilisés dans certaines Bibles, comme la parole de vie par exemple, où ça va être très orienté. Lisons donc. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir et mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane, en contradiction avec ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « Nous voyons se réaliser ce que l'Éternel a annoncé lorsqu'il a déclaré, « Ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Aaron garda le signe. Nous nous arrêterons là. Après, on passe sur un autre thème, celui de l'adaptation de Aaron à ce qui vient de... Mais déjà, il y a des choses à dire. À votre avis, et je vais vous mettre à contribution, parce que moi j'ai déjà mon avis, mais à votre avis, pourquoi Dieu a-t-il tué Nadab et Abihu? Réponse A, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la tente de la rencontre. Réponse B, ils ont utilisé des braises incandescentes. Réponse C, ils ont brûlé de l'encens. Ou réponse D, la réponse de Gad Elmaleh. On le fait à main levée? Alors, qui dit réponse A? Okay. Réponse B, soyez pas timide. Ok, quelques-uns. Réponse C, ok, donc tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est réponse D? Très bien, c'est réponse B. Alors, pourquoi c'est pas la D? Parce que ça, je garde ça au one-man show. Pourquoi c'est pas la A? Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la tente de la rencontre. Si, en fait, et c'était même les seuls qui avaient le droit de rentrer dans la tente de la rencontre. C'était les fils d'Aaron. Ils étaient prêtres de l'Éternel. Et je vais en reparler, mais les chapitres précédents sont en train de mettre en place le système sacrificiel dans la tente de la rencontre pour qu'effectivement... Aaron et ses fils, d'ailleurs il n'y a pas que Nadab et Abihu dans les fils, c'est deux des fils de Aaron, vont pouvoir exercer leur ministère. Donc réponse A, non, clairement, ils sont pleinement dans leurs droits. Pourquoi ce n'est pas la réponse C? Brûler de l'encens est un des moyens d'apaiser Dieu, qui a été donné par Dieu, c'est un des rituels qui a été donné par Dieu. Et du coup, pourquoi réponse B? Alors, c'est quoi ces braises incandescentes? La version dans laquelle je l'ai lu, le texte dit qu'ils y mirent des braises incandescentes et surtout qu'ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane. Le feu est profane non pas par rapport à l'encens qu'ils mettent dans leur encensoir, mais par rapport aux braises qu'ils ont utilisées pour le faire. Ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas lu les chapitres qui précèdent, où c'est Dieu lui-même qui a allumé un feu dans la tente de la rencontre, un feu qui demande à être éternel, et c'est ce feu-là, et uniquement ce feu-là, qui doit être utilisé pour les rituels de sacrifice. Et là, c'en est un. Ils étaient à ça de réussir, et ils ont carrément échoué, puisque ils en sont morts. Enfin, Dieu les a punis, on ne peut plus sévèrement. Ce que je vous propose comme plan pour ce matin, c'est celui-ci. on va voir en quoi ce texte est un texte qui est une étape clé. Et ce qui nous permettra de comprendre aussi pourquoi cette sentence. J'essaierai de vous donner quelques explications de texte sans donner trop, parce qu'il y en a beaucoup qu'on pourrait donner et se perdre un petit peu. Et finalement, on s'intéressera à cette relation Dieu-homme qui est voulue mais compliquée, qui, je crois, est au cœur de ces chapitres dans le Lévitique. Et on se posera cette question fameuse. Est-ce que ce texte va nous parler encore aujourd'hui? Avec quoi est-ce que je repars ce dimanche par rapport à un texte qui est loin, en tout cas, de ce qu'on a l'habitude de lire? Voilà, une étape clé. Pardon, je reviens dans mes notes. Voilà. La première chose qui nous frappe, et vous avez peut-être fait la même expérience que moi, c'est que c'est un texte qui est dur. Il est dur parce qu'il y a l'immédiateté de la sanction de Dieu. Que Dieu finisse par tuer des gens, tuer des hommes qui ont désobéi. On le voit dans des textes de la Bible. On le lit parfois que cette sentence de la mort, même dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose. Mais on a l'habitude d'un Dieu qui est profondément patient, qui va venir nous chercher, qui va venir nous rappeler à l'ordre avant d'appliquer son jugement. Et là, rien. La faute, et en plus le texte nous est donné sous un sens narratif. Il n'y a même pas d'échange entre Dieu, Nadab et Abihu, il n'y a rien, il n'y a aucune parole qui est prononcée. À la limite, Moïse qui dit quelque chose après, mais qui l'adresse non pas à Nadab et Abihu, qui à ce moment-là sont morts, mais qui l'adresse à Aaron, on n'a rien. C'est dur quand on lit ça. Et surtout nous qui croyons en Jésus-Christ, qui croyons à cette grâce, au pardon, ce texte nous paraît peut-être un peu loin, un peu lointain en tout cas. Cette immédiateté dans la sentence qui est donnée, on l'a, je crois, que trois fois dans la Bible. Dans ce texte, peut-être dans un texte que vous connaissez un peu mieux de Ananias et Saphira, acte 5, où Ananias et Saphira mentent à Pierre, et Pierre leur dit « Mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit ?» Et pouf, ils sont morts comme ça sans avoir eu le temps même de répondre à la question de Pierre. Et Uzza, qui voulait faire les choses bien, le coffre de l'Alliance était en transit entre... Ah, j'ai perdu le nom de là où il était parti, mais il allait jusqu'à Jérusalem. Et le chemin était un peu comme à Clermont-Ferrand en ce moment, quoi. On se retrouve avec à un moment, l'Arche de l'Alliance manque de tomber. Et Uzza, lui, la chose qu'il a pensé à faire pour éviter que ça tombe, c'est de mettre sa main pour retenir l'Arche. Il ne fallait pas. Il n'avait pas le droit. Dieu l'a tué instantanément. Qu'est-ce qui se passe dans ces trois textes? Quel est le point commun de ces trois textes, finalement? Dans les trois cas, le jugement est tombé, et ce jugement immédiat, car la sainteté de Dieu doit être respectée. Pour Ananias et Saphira, Pierre nous le dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Pour Uzza, c'est qu'il n'avait pas le droit de toucher l'Arche de l'Alliance, la chose la plus sainte à ce moment-là dans Israël. Et ici, ils ont, dans l'attente de la rencontre, fait quelque chose qui ne correspondait pas. Mais on a d'autres textes qu'on connaît aussi, comme le veau d'or, comme la désobéissance au moment d'entrer dans Canaan, ou encore Ninive, dans le livre de Jonas, où c'était pas bon ce qui se passait non plus. Il y a eu désobéissance profonde, et pourtant Dieu a été patient dans les trois cas. Parfois, il y a eu sentence. Ils ont traîné 40 ans dans le désert, mais il y a eu de la patience de la part de Dieu. C'est pourquoi je dis que cette différence entre jugement immédiat et un Dieu habituellement patient, en partie, on peut l'expliquer ici, qu'on est sur une étape clé de la révélation biblique. Ce qui se passe juste avant, et je l'ai dit très brièvement tout à l'heure, les chapitres précédents mettent en place le système sacrificiel, les rituels si vous préférez, afin que le peuple puisse être en relation avec Dieu. C'est tout nouveau. L'attente de la rencontre, elle n'avait pas encore pris ses fonctions. Et l'attente de la rencontre, c'est la présence de Dieu parmi son peuple, dans le camp. Cette action de Dieu, à ce moment-là, a une portée pédagogique. Tragique pour les deux fils de Aaron, mais pédagogique pour l'ensemble du peuple derrière. Imaginez le reste des prêtres, quel avertissement de leur dire « Maintenant, vous avez compris qu'il ne va pas faire n'importe quoi dans les rituels, dans la relation avec moi. » Je vous laisse ces deux références, si vous voulez les noter, ceux qui prennent des notes, qui si vous avez envie de prolonger cette étude chez vous. Ce qu'on... Attendez, je suis un peu perdu dans... Oui, je l'ai mis à l'envers, c'est ça. D'abord, quelques explications de texte. Donc, premier culte sacrificiel, j'en ai parlé. Dieu sanctionne celui qui s'approche de lui impur. L'attente de la rencontre, c'est la présence même de Dieu. On avait un Dieu qui se tenait plus ou moins loin de son peuple. Et là, il est à l'intérieur du camp et à l'intérieur de la tente. Et on met en place un système pour que des prêtres, une partie du peuple, puissent s'approcher de lui, puissent rendre des sacrifices. C'est comme ça que ça devait se passer. Et là, on a deux prêtres qui ne respectent pas les indications que Dieu a données. Et ces deux prêtres vont être sanctionnés parce qu'ils ont voulu s'approcher de Dieu. Et Dieu leur a dit, en fait, finalement, vous êtes trop près et vous êtes impurs. Vous n'avez pas fait ce que j'avais dit dans le bon ordre, dans la bonne manière, et donc votre impureté, je ne peux pas l'accepter. C'est ce feu profane qui est, comme je le disais, à la différence du feu de l'Éternel, qui est le problème. Ce feu profane, il renvoie à... J'avais pris des notes, j'ai rien suivi. Ce feu profane renvoie donc au chapitre 6, là où il est mis en place. Dieu allume lui-même un feu à l'intérieur de la tente de la rencontre. Et il dit au prêtre, maintenez-le allumé afin qu'il brûle éternellement et utilisez-le dans tous les sacrifices que vous ferez, pour brûler de l'encens, pour brûler de la graisse, pour brûler des bêtes, pour toutes sortes de sacrifices. Ce qu'il faut comprendre derrière ce feu, c'est que ce n'est pas juste quelques silex qu'on gratte et que ça fait des étincelles. Le feu, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, c'est l'action de jugement de Dieu qui est représentée derrière ce feu. Je suis désolé, j'ai été un peu vite. Je me rends compte, je me suis emporté dans mes... Je vais ralentir. Ça, on l'a en Deutéronome 32, verset 22. Donc toujours, pour les passionnés de lecture de textes de l'Ancien Testament, voilà, Deutéronome 32. Sans un sacrifice brûlé par le feu de l'Éternel, il ne peut pas y avoir de purification, il ne peut pas y avoir de pardon. Cette action de jugement, on la voit dans notre texte, parce que Dieu juge Nadab et Abihu avec son feu. Je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais il les consume ou quelque chose comme ça. C'est le feu jaillit sur ces deux personnes et ça les brûle. Donc c'est bien le feu qui a une action de jugement, mais aussi dans les sacrifices qui étaient donnés, le feu vient agir comme jugement positif, négatif de la part de Dieu. Et par définition, ce feu qui était apporté de l'extérieur de la tente de la rencontre, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'extérieur, un barbecue de cette époque-là, j'imagine, ou quelque chose comme ça, ces braises incandescentes n'étaient que du feu normal, banal, il n'avait aucune puissance divine, aucun pouvoir de pardon de la part de Dieu. Ce n'était pas son feu. C'est pourquoi la présence de ces deux prêtres dans l'attente de la rencontre n'allait pas. Ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir se présenter dans l'attente de la rencontre. On a cette parole de Moïse qui intervient après et qui nous donne aussi un petit peu quelques éléments pour essayer de décortiquer un peu ce texte. La parole de Moïse, elle fait probablement référence à quelques versets qui ont été donnés en Exode, que je vais vous lire. C'est Exode 19, versets 20 à 22. « L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï. Il appela Moïse. Moïse y monta. L'Éternel lui dit, « Redescends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. Même les prêtres qui qui s'approchent de moi doivent se purifier sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang. » Moïse dit « La sainteté de Dieu doit être respectée. » On ne fait pas n'importe quoi. Dieu agit, Dieu, je dirais, doit agir à ce moment-là, car sa sainteté passe avant tout. L'impureté de l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu, enfin l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu à cause de son impureté sans qu'il en soit purifié ou pardonné. Et je crois que cette phrase, c'est un peu le fil rouge de tout le Lévitique, de tout Deutéronome. Du coup, on a, maintenant qu'on reprend un peu de hauteur sur ce texte, on a un état de fait où la relation entre Dieu et les hommes est voulue par Dieu, mais elle est compliquée. Pourquoi elle est voulue par Dieu ? Dieu a donné toute une série de rituels sacrificiels, de purification, etc., afin que l'homme puisse s'approcher de lui dans l'attente. Dieu connaît sa sainteté, sait que l'homme ne pourra jamais, comme ça, s'approcher de lui sans avoir été purifié et pardonné. Donc l'Éternel veut cette relation, profondément, et toute la Bible en parle. Mais sa sainteté passe avant tout. Il y a trois notions, je crois, dans la Bible qui se chevauchent un peu, et j'avoue, pour moi, ça a été l'occasion de faire un peu le tri dans ce que je pensais, enfin en tout cas dans les liens entre tout ça. C'est le pardon, la purification et la sanctification. Nous, chrétiens, on parle souvent de sanctification. On parle aussi de pardon en Jésus-Christ. On l'a chanté ce matin, on l'a fait avec la Sainte Cène. On parle un peu moins de purification. Le pardon, vous le voyez avec ce maillet qui tape celui de la justice, c'est celui qui pardonne, c'est celui qui dit la condamnation qui avait été donnée, elle n'a plus lieu d'être. Tu es pardonné. Si vous dites à un enfant, va dans ta chambre, et qu'à un moment vous lui dites, c'est bon, t'as fait ton temps, à ce moment-là, en théorie, il est pardonné. C'est pas pour le renvoyer 5 minutes plus tard dans sa chambre. Sauf s'il fait une autre bêtise, bien sûr. Ça, après, je vous laisse faire comme vous voulez chez vous. La purification, vous vous lavez les mains, vous prenez un bain, vous vous nettoyez. La purification, c'est que là, à un moment donné, vous êtes pur, pur devant Dieu. Donc, c'est ce que voulait faire Nadab et Abihu, il me semble, hein, dans le fait de vouloir répandre de l'encens dans l'attente de la rencontre, de vouloir s'approcher. C'était un peu cette dynamique-là. Et la sanctification, l'Ancien Testament en parle relativement peu, il me semble, le Nouveau est beaucoup plus bavard là-dessus. Finalement, c'est l'étape d'après, ou d'à côté. C'est cette idée que Dieu dit « Soyez saints comme je suis saint ». Nous connaissons notre nature de pécheur et nous ne voulons pas en rester là. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce constat, de cette volonté-là, vous commencez l'étape de sanctification. Vous commencez à vouloir devenir de plus en plus saint, de plus en plus à l'image de Dieu. Ça ne remplace pas le pardon, ça le pardon de Jésus-Christ, mais ça vient en plus, après. Donc cette relation, elle est difficile, parce que lui, le peuple, il est non saint, il est impur, il est imparfait, tout ce que vous voulez. Le terme hébreu, c'est kadosh, et il est traduit par, effectivement, dans nos traductions, par le mot saint. Il est aussi traduit, en tout cas, il veut dire aussi séparé, mis à part. Saint, c'est être séparé du péché. Dieu est saint parce que Dieu n'a aucun lien. Dans sa nature, il est complètement séparé du péché. Le péché est absent de lui. Devenir saint, c'est se séparer du péché. Et c'est là que Dieu met en place toute une série de règles. Donc tout le Lévitique, pourquoi c'est difficile à lire le Lévitique ? Parce que c'est toute une série de règles, mais qui étaient nécessaires à avoir pour les Hébreux, afin qu'ils puissent se tenir dans la présence de Dieu, et en particulier dans l'attente de la rencontre. Le fait que ce soit Dieu qui donne ces règles, ça montre encore une fois que c'est Dieu qui fait le premier pas. Ce n'est pas l'homme qui a essayé d'inventer à sa sauce quelque chose en faisant des tests pour savoir comment il pouvait être ou pas en présence de Dieu. Dieu leur a tout donné. C'est difficile à mettre en œuvre, on le voit, mais il a tout donné. Et ce texte qui arrive juste après une série de règles, et puis il y en aura d'autres dans la suite des chapitres, c'est un peu cet exemple ou ce contre-exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Dieu a la volonté d'être en relation avec son peuple. Ça, c'est dans la nature de Dieu. C'est intemporel. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête au moment où Jésus-Christ a dit « ça y est, je suis là ». C'est présent dans l'Ancien Testament, ça fait partie de la nature de Dieu, c'est présent dans le Nouveau Testament. Dieu veut être en relation avec nous. Ce qui donc nous permet d'aller vers cette dernière étape, est-ce que c'est un texte qui nous parle encore aujourd'hui? Alors, il faut un petit peu gratter, mais oui, oui, il y a matière. Parce que cette relation voulue par Dieu, elle est présente aussi dans le Nouveau Testament. Au risque de vous choquer, nous méritons tous de mourir comme Nadab et Abihu pour nos fautes. C'est ainsi que c'est écrit dans la loi de Dieu. Sauf que Jésus nous propose d'être mort à notre place. La sentence reste la même, elle ne s'applique pas sur la même personne. Accepter la mort de Jésus pour soi-même, c'est un peu comme prendre une assurance voiture. Il y a quelques années de ça, oui, vraiment quelques années, j'avais mon A encore derrière la voiture. Dans les rues de Tours, l'avant de ma voiture a rencontré, un peu brutalement j'avoue, l'arrière de la voiture qui l'a précédée. Puisque j'étais couvert au tiers, vous savez l'assurance au tiers, le propriétaire en colère de cette voiture ne m'a pas intenté de procès. En effet, mon assurance a couvert les frais de réparation sur sa voiture. Il n'y a pas eu besoin d'aller devant la justice pour savoir qui c'est qui avait tapé la voiture de qui et comment. D'après la loi, j'avais commis une faute. Mais l'assurance en a payé le prix à ma place. C'est là où Jésus, c'est un peu l'assurance qui paye de sa mort le coût de nos fautes. Croire en Christ, accepter Christ, accepter son sacrifice qu'on a chanté, qu'on a célébré avec la Sainte Cène, c'est faire en sorte que ce jugement que Dieu a sur nous, aurait sur nous à cause de nos fautes, serait déjà payé. Si le jugement est déjà appliqué, alors les péchés sont pardonnés. Et ça donne, et c'est le lien entre pardon et purification, ça donne un état de pureté qui est atteint pour les croyants. Nous pouvons aller vers Dieu parce que nous sommes pardonnés. Parce que, de son point de vue, nous sommes déclarés comme purs, purifiés. En résumé, si le jugement est déjà appliqué, si son prix est déjà payé, nous pouvons nous approcher librement de Dieu tout en respectant la sainteté de Dieu. Que reste-t-il de ce texte ? Il n'y a plus de règles à respecter pour s'approcher de Dieu. Il n'y a plus de risque de mourir. Ça, c'est ce qu'il n'y a plus. Mais ce qui reste, c'est que Dieu veut une relation avec nous et ce que la sainteté de Dieu doit être respectée. Je pense que le fait que Dieu veuille une relation avec nous, on était à peu près tous conscients. En tout cas, si vous croyez en Dieu, si vous fréquentez une église, c'est quelque chose qu'on dit, qu'on parle, qu'on chante. Mais la sainteté de Dieu qui doit être respectée, voilà. Et à la lecture d'un texte comme ça, comment on fait ? Dieu veut une relation avec nous. Et oui, Dieu nous a même donné le Saint-Esprit. Nous sommes, notre corps est déclaré temple du Saint-Esprit. La tente de la rencontre, c'était le temple, le premier temple, si on veut. Nous sommes, nous-mêmes, temple du Saint-Esprit. Présence même de Dieu, c'est cette nouvelle présence de Dieu dans son peuple. La nouvelle tente de la rencontre. Nous sommes la nouvelle tente de la rencontre. Avec Christ, il y a une relation qui devient possible malgré le péché. Nous sommes purs devant Dieu à cause du sang de Christ, qui a déjà coulé et qui nous a pardonné. Dans notre texte, pour faire le lien avec notre texte, Nadab et Abihu voulaient se tenir dans la présence de Dieu, voulaient rentrer dans la tente de la rencontre. Et pour faire ça, ils ont fait comme c'était indiqué, ils ont brûlé de l'encens, mais ça n'a pas marché. Et le pouvoir de ce rituel, même s'ils l'avaient fait comme il fallait, le pouvoir de ce rituel est infiniment moindre par rapport au pouvoir du sacrifice de Christ. Nous sommes pleinement et sans condition, si ce n'est notre foi, capables d'être en relation tout le temps avec Dieu. Dieu peut donc être en nous par son esprit, car le pardon offert par la mort de Jésus est parfait et complet. Christ, croire en Christ, recevoir son pardon, c'est la seule chose à faire pour avoir cette relation. Il n'y en a pas d'autre. Si vous imaginez qu'il faut être mieux, plus quelque chose que ça, pour pouvoir vous tenir dans la présence de Dieu, vous mettez le doigt dans l'œil. La seule chose que Dieu nous demande, c'est juste d'accepter son sacrifice pour soi-même. Le texte que j'ai affiché nous parle de sainteté. Et dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, c'est Paul qui parle. Je n'ai pas pris mes lunettes et ça va être trop loin pour moi là-bas. Donc si vous me permettez, je vais attendre que ça s'allume. Romains 6, versets 1 et 2, puis 6 et 7. Que dire maintenant ? Persisterions-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Le respect de la sainteté de Dieu est quelque chose qui est encore valable dans le Nouveau Testament pour les chrétiens. Être pardonné par Christ, ça ne veut pas dire que l'Éternel ne souhaite plus nous voir faire les choses bien. Si moi je pardonne mes enfants quand ils tâchent leurs vêtements, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de leur demander de manger au-dessus de la table. Tout comme Nadab et Abihu, nous méritons la mort pour nos fautes. Est-ce que nous sommes bien conscients de cela quand nous tolérons le péché dans nos vies ? Est-ce que nous sommes conscients qu'un texte aurait dû s'appliquer à nous si Jésus n'était pas là ? L'immédiateté de cette sanction, je veux le croire, n'est plus d'actualité. Je suis désolé pour Ananias et Saphira, ils sont mal tombés, c'était ce qu'il ne fallait pas faire et pas à ce moment-là. Dieu les en a jugés par leur mort, mais aujourd'hui, nous savons que nous avons un Dieu patient, un Dieu qui, pas qui dit c'est pas grave quand nous nous plantons, mais qui nous dit la prochaine fois ce sera mieux, on va travailler ensemble. Dieu, lui, il a déjà tout mis en place et le pardon est déjà donné aux croyants. La seule chose qui nous reste, c'est le travail sur la sanctification. Et ce travail, et c'est là toute la grâce divine, ce travail ne se fait pas comme un prérequis dans cette relation avec Dieu. Pour le dire autrement, Dieu n'attend pas que nous travaillions sur notre sanctification pour accepter d'être en relation avec nous, mais au contraire, il nous dit « je suis là et en vous » et c'est ensemble, en pleine communion, tous les deux, qu'on va pouvoir travailler sur la sanctification. Et ça, c'est une grâce. Tout a déjà été accompli, il ne reste que cette part qui nous revient à réaliser. Alors, comme on l'a chanté ce matin dans le chant « Ô prends mon âme », je veux prier que le Seigneur soit notre guide, chef de notre foi. Prions.